Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast du Club Prono. Je suis Alexia Courreau, cofondatrice du club. Créé en 2021, il rassemble à ce jour plus de 80 membres qui se regroupent en moyenne deux fois par mois au travers de manifestations physiques et virtuelles. L'objectif étant de pouvoir faire grandir l'écosystème par le retour d'expérience, la rencontre et surtout l'enrichissement.
Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast du Club Prono. Je suis Célia Alessandri, cofondatrice du Club Prono. Prono, ça veut dire productivité et knowledge. Et c'est donc un réseau professionnel qui rassemble des personnes passionnées, curieuses ou expertes de la gestion des connaissances et de la productivité dans le monde de l'entreprise.
À travers ce podcast, vous retrouverez des parcours de knowledge manager avec des expériences de vie et d'ancienneté très variées, des retours d'expériences projets très diverses, ainsi que des partages théoriques dans le monde de la recherche.
Sans plus attendre, nous vous proposons de découvrir la première série de ce podcast. Elle met en lumière les knowledge managers, alias gestionnaires de connaissances en français. Quels sont leurs parcours, leur rôle au quotidien, leur mission, et même leur vision du métier? C'est ce que vous allez découvrir à travers des témoignages de 20 minutes.
Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour Louis-Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'enregistrement pour ce deuxième épisode du podcast Prono, dédié un petit peu à la découverte des profils de gestionnaires de la connaissance.
Bonjour.
Donc je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Alors déjà, Louis-Pierre, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu en une phrase?
Wow, alors une phrase. Allez.
Quelques mots.
Je me lance. Alors, je veux dire, j'augmente la performance et l'innovation grâce à un knowledge management efficient et intégré à vos pratiques métiers, avec vos équipes pleinement engagées et motivées.
Ok. Bon, on va avoir l'occasion, je pense que tu nous détailles un petit peu tout ça, mais au moins, on a la phrase, on a les virgules, on a tout. Trop bien. Mais du coup, avant qu'on rentre un petit peu dans ce détail-là, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, revenir un petit peu sur les faits marquants, ton expérience un petit peu dans les grandes lignes, pour qu'on puisse aussi situer un petit peu ton profil et ton expérience, où tu en es dans ta carrière, Louis-Pierre?
Bon, alors, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans le management des connaissances, hein, le knowledge management. J'ai commencé dans les années 90 par de la GED, quand c'était pas encore le mot KM.
Alors, tu peux juste nous expliciter GED pour les...
La GED, c'est la gestion électronique de documents. Tout ce qui concerne, d'abord c'était les documents papier, puis après c'était électronique, avec des outils comme SharePoint qui déjà existaient à cette époque-là. C'était tout début. Donc, j'ai commencé sur la GED en tant que consultant. Petite boîte qui s'appelait Parker Willyborg, qui est toujours existante maintenant. Et puis après, j'ai voulu passer de conseil à faire. Donc, je suis allé dans une grande boîte qui s'appelle Schlumberger, qui fait du service pétrolier franco-américain. Et là, j'ai découvert en 97 le KM et les communautés ce que c'était. C'était, ça faisait juste de sortir en tant que concept, hein, le KM.
Et donc, j'ai découvert knowledge management, juste pour être...
Voilà, KM égale knowledge management. Donc, j'ai découvert le knowledge management à cette époque-là, en 97, chez Schlumberger, parce que l'entreprise avait décidé que ce serait un des moyens pour pouvoir améliorer son efficacité et sa compétitivité, étant totalement mondial. Et donc, j'ai fait des projets autour des outils et de la mise en œuvre de solutions, soit de GED, soit de management des connaissances, au sein de Schlumberger pendant une dizaine d'années, en ayant terminé par tout ce qui est outils collaboratifs, intranet, moteur de recherche, documentation technique et d'autres.
Tu as suivi vraiment l'évolution digitale.
Digital complet, le début d'XML quand ça a commencé à venir en l'an 2000. Et donc vraiment, c'est toute l'évolution de tous les outils, de toutes les méthodes qu'il peut y avoir liées à ça. Et j'ai beaucoup découvert les communautés de pratique et c'est comme ça que je me suis beaucoup intéressé au sujet. J'en ai vu, j'en ai créé. J'ai travaillé avec l'équipe centrale qui s'occupe du knowledge management chez Schlumberger. Bon, après un saut, je suis arrivé chez Schneider Electric. Et là, au départ, c'était, j'avais via un rachat et c'était la problématique, c'était comment améliorer la collaboration. Et j'ai pu, en trouvant la bonne personne, me raccrocher à un senior vice-président N-1 d'un membre du COMEX qui m'a écouté, qui m'a dit « Ah super, ton sujet m'intéresse parce que c'est une grosse problématique chez Schneider. Les grands chefs, c'était en 2011, trouvent qu'on ne collabore pas du tout au niveau mondial. » Et donc, je lui dis « Ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une solution qui marche très bien ailleurs, c'est mettre en place des communautés, effectivement, de pratiques inter-pays, dans différents domaines. » Et donc, j'ai aidé au départ à en trouver chez Schneider, puis après ensuite, j'ai aidé à en monter. Après, on a commencé à un pilote, et on a convaincu les grands chefs. Après, c'est devenu un programme d'entreprise sur 3 ans, avec bénédiction du COMEX, des gens qui ont été nommés pour m'aider et tout. Et après, c'est devenu le programme de communauté de Schneider qui s'appelle Communities at Work, qui est toujours présent, hein, toujours au bout de... Ça va faire 10 ans, pratiquement, 12 ans maintenant, ça tourne toujours, voilà. Il y a toujours quelqu'un qui s'en occupe, il y a toujours un programme chaque année qui mesure la valeur des communautés, donc comme quoi ça marche toujours, c'est un programme qui tourne. Puis en même temps, j'avais une équipe aussi pour faire du management des connaissances, on a travaillé sur des notions de Wikipédia d'entreprise, on a travaillé sur la notion d'améliorer la performance, la marge des projets, donc avec du management des connaissances, travailler sur la notion d'expert, les experts, les réseaux d'experts dans l'entreprise.
Ok, ne nous en dis pas trop parce que après tu vas nous détailler ton rôle, mais du coup, est-ce qu'on pourrait dire finalement que voilà, donc toi tu as des années d'expérience sur ce sujet, en tout cas sur la gestion des connaissances, avec une spécialisation plus sur la pratique et le déploiement et l'animation des communautés. Et en type d'entreprise, on va dire que c'est plutôt des grands groupes dans des secteurs d'activité plutôt industriels,
grands groupes internationaux.
Ok, génial. Et donc, du coup, justement, tu nous as un peu évoqué les projets qui durent encore aujourd'hui, ce que tu as pu mettre en place. Mais est-ce que tu pourrais nous détailler finalement ton rôle et tes missions justement au quotidien dans ton périmètre, dans ton scope actuel?
Justement, donc maintenant, je suis devenu consultant. Donc, depuis 5 ans, j'ai créé une entreprise de conseil qui s'appelle Amalte, avec 2 L, AMA2LTE.
Fait une petite parenthèse, mais oui, Pierre, tu es obligé de nous dire pourquoi Amalte.
Alors, Amalte, parce que ça vient en fin de compte du mexicain Amalte, et l'Amalte, c'est le nom d'un arbre apparenté au ficus dont l'écorce a servi à faire des codex. Les codex mexicains. Donc, Amalte, l'arbre, la connaissance, et c'est comme ça que j'ai créé le nom de cette entreprise.
Génial.
Et donc, conseil depuis 5 ans. Alors, j'ai différentes, je dirais, cordes à mon arc. Hein. Effectivement, je travaille beaucoup en solo, mais aussi beaucoup avec des partenaires, principalement Uruk, qui est une autre petite société d'environ 20 personnes dans le domaine de ce qui est transfo digital, knowledge management, documentation technique, GED. Ce qui est en général gestion de l'information au sens très large.
D'accord.
Je suis pas mal de commercial aussi par rapport à ça. Et je fais, alors, dans les domaines sur lesquels je suis, c'est plutôt, d'une part, sur les communautés de pratique, parce que je suis plutôt connu pour ça et tout ce que j'ai pu faire dessus. Le digital workplace, les intranets et tout ce qui est connaissances critiques à extraire et ensuite à expliciter et à mettre en œuvre dans des portails KM.
Donc, la partie outils digitaux collaboratifs, c'est dans ce que tu évoquais aussi, que tu as vraiment suivi dès le début de ta carrière et tout le long de ta carrière.
C'est ça, tous les outils. Et effectivement, tout ce qui est usage, surtout, c'est vraiment usage des outils collaboratifs.
D'accord. Donc, vraiment, on peut dire 3 volets. La partie plus commerciale avec aussi un petit peu Uruk, le côté outillage digitaux et la partie communauté de pratique.
Voilà. Et puis aussi de la formation, que je donne aussi des cours. Je donne des cours au CNAM, au certificat management des connaissances. Je donne des cours aussi à KEDGE, Business School, sur les communautés. Et puis, dans mon rôle aussi, c'est aussi du partage. Hein. Je donne aussi mon savoir dans deux communautés. Hein. L'une, c'est COP1, une des communautés du management des knowledge managers. Et puis KCO, qui est une autre communauté autour des Knowledge Community Observatory, sur les communautés en entreprise.
Donc, un quotidien assez riche, finalement, pas et mal, très, très diversifié. Ok, trop bien. Et est-ce que tu aurais, par exemple, dans toutes ces casquettes que tu as, peut-être pour quelqu'un qui est novice et qui, voilà, qui découvre ce domaine-là, un exemple de projet ou quelque chose qui rassemble, en tout cas dans une des casquettes, une illustration de ce que, comment un projet peut se dérouler et peut se mener.
Bah, là, j'en ai donc un que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était au départ, c'est une problématique de que nous voudrions capitaliser nos connaissances critiques tacites et explicites, connaissances critiques qui sont soit savoir et savoir-faire dans la tête d'une équipe, dans un département, d'un organisme, en vue de pouvoir les capitaliser pour que si jamais les gens changent de job, c'est une rotation des personnes. C'est des nouveaux venus, surtout qu'il y a des élus de cet organisme qui arrivent, donc qui sont élus tous les 4-5 ans. Comment s'assurer que le savoir qu'ils possèdent par rapport à la négociation, par rapport à la mise en œuvre d'échanges et de faire valoir la valeur de cet organisme public peut être conservé. Et donc, il y a eu un gros travail, disons, d'explicitation en travaillant avec eux sur leur domaine, sur leur connaissance critique, les faire, disons, accoucher sur leur connaissance via justement des post-it avec Klaxoon. Et puis ensuite, travailler sur, à partir de ça, quelles sont les fameuses connaissances, est-ce qu'on peut les décrire, les écrire. Et après, c'était les mettre en forme dans un portail KM où on a mis en place ces connaissances sur des grandes thématiques. Il faut aussi des interviews qu'on a transcrites pour pouvoir retracer l'historique de ce savoir, et puis aussi en s'assurant que des membres du groupe allaient mettre à jour régulièrement le savoir thématique dans leur domaine pour être sûr que à la fois c'était sur du vocabulaire, sur des bonnes pratiques, sur des thématiques, sur comment fait-on pour, de telle manière que globalement ça puisse rester vivant au travers du temps.
Toute la partie animation aussi là-dessus.
Animation, retour d'expérience, etc. Communauté était déjà pris en charge, donc on l'a pas fait, mais on aurait pu effectivement aussi créer des communautés par rapport à ça.
D'accord. Et du coup, comment les deux ont coexisté?
Les deux, c'est-à-dire?
Avec la partie communauté qui était déjà créée.
Alors, eux avaient déjà des communautés de créer par rapport à des formateurs et qui effectivement servaient aussi à transmettre au niveau dans leurs différentes régions du savoir et des échanges de pratiques.
D'accord.
Donc, on n'a pas créé, comme ils n'étaient pas assez nombreux dans ce petit département, on n'a pas créé de communauté, mais ça avait été beaucoup plus large. Alors, on a pu imaginer une communauté permettant de pouvoir s'assurer de la maintenance du contenu du portail KM.
Très clair. Génial. Trop bien. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon déjà de toutes tes casquettes et de comment est-ce que concrètement, ce que ça veut dire aussi au quotidien d'être gestionnaire de la connaissance avec Louis-Pierre. Et du coup, alors on va peut-être revenir encore même aux prémices. Et comment est-ce que toi, tu as découvert justement la gestion des connaissances, le knowledge management, et qu'est-ce que finalement ça a changé pour toi quand tu l'as découvert?
Alors déjà, j'ai découvert, il faut dire remonter fin des années 80, j'ai découvert qu'on pouvait avoir du contenu numérique. Alors je pense que tu n'étais pas né à cette époque-là. Le découvert, il n'y a pas encore l'internet, mais il y avait déjà des CD-ROM. C'est là que j'ai découvert qu'on pouvait mettre du savoir en boîte et qu'on pouvait comme ça l'interroger et le rechercher. Pour moi, c'était la révolution. Je me suis dit, tel sujet dans lequel je vais être, car pour moi, ça va être un changement énorme dans les modes de fonctionnement. Et c'est comme ça que je suis venu à la connaissance, d'abord à la GED, et puis après, plus tard, l'étape, c'était le KM quand le concept a été, disons, créé en tant que concept avec des chercheurs et tout. Et c'est comme ça que j'ai découvert le KM, en fin de compte, en allant chez Schlumberger, où là, j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui ont travaillé dessus et qui le mettaient en œuvre d'un point de vue assez systématique. Et pour moi, c'était la révolution. Et donc, clairement, je me suis dit, c'est le sujet. J'y crois. Et je n'ai pas voulu devenir chef de chef en me disant, si je reste juste manager de premier niveau, manager de terrain, je garderai ma compétence qui permettra de pouvoir la conserver toute ma vie sur ce sujet-là. C'était un choix dès le début, en fin de compte.
D'accord. Tu nous fais une parfaite transition pour la question suivante sur la partie révolutionnaire de ton constat, en tout cas de ta découverte du knowledge management. C'est justement aujourd'hui, ces années après, comment est-ce que, toi déjà, tu te vois évoluer aussi, mais comment est-ce que tu vois l'avenir du knowledge management aujourd'hui?
Bon, j'ai encore un paquet de temps avant d'être à la retraite, donc je pense que je vais évoluer. Alors soit je vais rester en solo, toujours avec des partenaires, soit, et ça me plairait bien aussi, ça serait de pouvoir basculer dans un petit cabinet spécialisé en KM et de devenir effectivement un des directeurs associés pour pouvoir là aussi transmettre mon savoir et pourquoi pas coacher de nouveaux consultants pour pouvoir faire perdurer justement ce savoir et cette connaissance liée à la manière dont on gère, dont on anime des projets KM.
Tirer la corde de formation que déjà tu as initiée aujourd'hui avec le CNAM notamment.
C'est ça, voilà, c'est ça.
D'accord. Et sur le KM en lui-même, sur Knowledge Management, est-ce que on parlait d'outils digitaux collaboratifs aujourd'hui, bon, évidemment, il y a l'IA. Est-ce que toi, tu as un avis, une opinion à partager là-dessus
Sur les outils, plutôt sur les ressources, je dirais beaucoup plus généralement. Je pense qu'il y a plein de ressources. Si on veut faire du KM, il y a plein de ressources et surtout, il y a des clubs en France. Qui sont avec des personnes qui font déjà du KM et qui peuvent vous apprendre des choses. Alors évidemment, tu as Pronao que tu connais très très bien. Hein. Il y a COP1, donc évidemment, je fais partie aussi.
Explique-nous peut-être COP1 aussi un petit peu.
Alors, COP1, c'est une association, une communauté qui date de 2003 de praticiens du management des connaissances. On a environ une quarantaine. On se réunit tous les mois en présentiel avec aussi du distanciel et on, à la fois, c'est des retours d'expérience, échanges de pratiques, et on fait tous les ans, un événement au mois de novembre qui dure une demi-journée avec des tables rondes où on invite plein de speakers à l'extérieur qui viennent parler sur un thème. Le thème de l'année d'il y a 3 mois, c'était justement IA générative et KM. Mmh. Ça, c'est COP1. Donc, évidemment, il y a Pronao. Il y a aussi le club gestion des connaissances, qui est un autre club aussi, qui est un peu plus vieux que COP1, je crois qu'il date du début des années 2000. Puis après, il y a des conférences, c'est connu, il y a des séminaires. Par exemple, il y a Ajexo, qui fait tous les ans un grand séminaire sur le KM. Et cette année, c'est à Paris-Dauphine, 29 et 31 mai. Dans les communautés, il y a Casseo, qui fait son symposium aussi. Alors là, c'est à Grenoble, à l'IAE de Grenoble, 21 et 22 mai. Où là, effectivement, là, on peut tout savoir sur les communautés.
Ok, donc là, ça nous donne
Ça, c'est en France. Après, mais l'étranger. Alors, en anglais, il y a l'APQC, apqc.org, qui est un organisme à but non lucratif qui a aussi une bonne base de référence sur le KM. C'est en anglais. Ça coûte environ 10 000 $ par an, mais avec ce prix-là, toute l'entreprise peut y avoir accès. Donc, c'est super intéressant. Il y a des forums d'échange comme le SIKM, qu'on trouve et on peut se brancher dessus, avec Stan Garfeld qui s'en occupe. Il y a le KMGM, le Knowledge Management Global Network aussi, qui fait des conférences. Donc là, il y a ça aussi. Et puis, bien sûr, il y a un certificat que tu as pris, d'ailleurs, de spécialisation en gestion des connaissances du CNAM, et qui commencera en mars de cette année, comme chaque année. Et ça, je pense qu'il y a de quoi faire. Puis il y a des bouquins, bien sûr. Alors,
j'allais dire.
On est quatre auxquels je pense, là, que j'ai devant moi.
Allez.
Allez, on se lance. Donc, déjà, sur le KM au sens large, moi, j'aime bien le bouquin de Prax, de Jean-Yves Prax, qui est parti à la retraite il n'y a pas très longtemps, mais qui a fait son manuel de Knowledge Management. C'est la 4e édition.
D'accord.
C'est plutôt bien fait.
Et donc là, c'est sur vraiment plus les basiques.
Les basiques, sur les méthodes, les basiques. Et ça, si on n'y connaît rien, quand on le lit entièrement, on en sait pas mal de choses sur ce que c'est que le KM. Donc, je pense que c'est une très bonne lecture que je conseillais beaucoup à mes étudiants comme lecture de base.
Génial.
Après, il y a en anglais, il est sorti l'année dernière, c'est Making Knowledge Management Clickable.
OK.
Sur ce qui est stratégie, design, implémentation d'un système de knowledge management. C'est un bouquin en anglais.
Donc, sur un déploiement, peut-être un cadrage, vision plus strate organisationnelle.
Et mise en œuvre de Joseph Higler et Zachary Wall. Mais je pense que tu mettras la référence dans ton
podcast. Oui, je les mettrai.
Et puis, sur les communautés, alors, il y a le livre que j'ai co-édité avec 71 contributeurs qui s'appelle « Le guide pratique des communautés ». Avec sa version en anglais, ça s'appelle « Le Practical Guide to Communities ». Qui a été publié en 2022 et qui vraiment est la référence dans le guide pratique sur les communautés.
Génial. Je crois que là, on a une bonne dose de référence pour pouvoir faire une bonne immersion et découvrir tout ce qui est bonne pratique et principe de base de la gestion des connaissances. Est-ce que Louis-Pierre, tu as un petit mot de la fin que tu as envie de nous partager, que ce soit sur le knowledge management ou même sur toi?
Bah, je me suis amusé évidemment à aller dans ChatGPT, hein, puisqu'on parle beaucoup d'IA générative, et puis j'ai posé la question sur le futur de knowledge management, donc je vous ferai grâce de la liste, et on a sorti une liste d'environ 10. Mais il est évident, évidemment, il s'est servi en premier, que l'IA générative est un des futurs du KM. On ne va pas s'y louper. Et là, c'est là où les knowledge managers ont un rôle à jouer, parce qu'il n'y aura pas de bonne qualité d'IA générative sans un KM de bonne qualité, qui s'assurera que les données seront de qualité, donc les documents et autres, ainsi que les métadonnées, avec tout ce qui est terminologie et ontologie, pour s'assurer que quand on recherche quelque chose, ce sera de la qualité en sortie. Alors, je vous rappelle, il y a un terme en anglais qui s'appelle GIGO, garbage in, garbage out. Si le contenu de départ n'est pas terrible, la sortie ne sera pas terrible non plus.
Donc, la fiabilité aussi du contenu et tout voilà. Le rôle finalement qui va être encore plus propulsé des gestionnaires de connaissances. Absolument. Autour de ça.
C'est fondamental.
Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Louis-Pierre pour ton temps, toutes ces infos très riches. Je pense que ça va en aider plus d'un et plus d'une. Et puis, je te dis à bientôt et on mettra toutes les informations sur la liste du podcast. Merci beaucoup.
Merci
Louis-Pierre.
Merci Célia.
Voilà, c'est déjà fini. On espère que vous avez apprécié votre écoute et on a hâte de vous retrouver sur le prochain épisode. À très vite avec le Club Prono.
En attendant, n'hésitez pas à aller consulter notre page LinkedIn, Prono Le Club, ou notre site web prono-leclub.com. À bientôt.